Les missionnaires sont des agents secrets. Les missionnaires travaillent ou représentent l'Occident. Les missionnaires travaillent le plus souvent pour leur gouvernement. Les missionnaires bénéficient de généreuses donations de leur gouvernement. Les missionnaires sont des agents d'aliénation mentale et culturelle. Les missionnaires sont des escrocs, sont des prédateurs. Les missionnaires sont des paresseux. Les missionnaires sont ceux qui fuient les dures réalités de leur pays pour chercher une vie facile. Les missionnaires sont ceux qui dilapident les fonds des donateurs. Voilà autant d'opinions ou d'idées que beaucoup de gens se font des missionnaires. Mais vous arrive-t-il de vous poser les questions à savoir comment vivent en réalité les missionnaires? Quelle est leur source de financement? Vu l'intérêt que beaucoup de pays du Sud ou beaucoup d'églises dans les pays non occidentaux accordent à la mission chrétienne au 21e siècle, une question fondamentale s'impose et cette question va servir de fil conducteur à notre capsule aujourd'hui. Quel est le modèle de financement d'œuvres missionnaires le mieux adapté aux réalités des pays du Sud? C'est votre ami Windel Benjamin Etienne, vous êtes à Causerie sur la mission. Merci à vous, merci d'être à bord. Sans avoir la prétention de faire la leçon à qui que ce soit, sans ignorer certaines réalités liées à la vie missionnaire ou à la vie de certains missionnaires ou de certaines philosophies à la base de certaines missions, je vais vous présenter 5 modèles de financement d'œuvres missionnaires. Ces modèles sont le fruit de mes réflexions basées sur des observations, sur des constats et sur certains travaux académiques. Certains de ces modèles sont appliqués par des églises, des missions ou des agences missionnaires. D'autres pourront servir de cadre de réflexion à des agences ou des églises ayant un élan pour la mission globale, notamment les églises qui envoient des missionnaires dans des pays du Sud ou des missionnaires qui exercent leur mission dans des pays du Sud. Le premier modèle que je vais vous présenter s'intitule « Le modèle de fonds disponible ». Qu'est-ce que j'entends par « le modèle de fonds disponible » Il s'agit de certaines missions, de certaines agences missionnaires ou de certaines églises qui consacrent un fonds missionnaire destiné à envoyer en mission l'intéressé. Le missionnaire est recruté comme un professionnel. Quel est l'avantage de ce modèle ou quels en sont ses avantages? Il y a plusieurs avantages dans ce modèle. D'abord, le missionnaire ne se fait pas trop de soucis pour lever personnellement des fonds. Deuxièmement, le missionnaire est plus en sécurité financière quant à la durée de sa mission. Donc, le missionnaire sur le terrain, il n'aura pas à se soucier de sa survie. Est-ce qu'il y a des désavantages ou des inconvénients relatifs à ce modèle? Évidemment, oui. J'ai relevé plusieurs inconvénients ou désavantages. 1. Le missionnaire n'est pas nécessairement en contact direct avec des partenaires financiers et de prière. 2. Le missionnaire ne participe pas vraiment à la mobilisation des chrétiens de sa dénomination ou de son église pour prendre à cœur la mission. 3. Souvent, le missionnaire est perçu par les nationaux et autochtones comme un patron supporté par un empire financier. 4. Ce modèle favorise une mentalité de dépendance. Mais il y a un deuxième modèle, c'est le modèle de coopération. Qu'est-ce que j'entends par modèle de coopération? Le missionnaire est responsable de lever ses propres fonds, suivant un budget soumis à son église ou à son agence missionnaire. Donc la coopération, c'est entre le missionnaire ou l'intéressé et son église, sa mission ou son agence missionnaire. La coopération s'explique par le fait que la mission ou l'agence missionnaire ou l'église locale donne le feu vert à l'intéressé d'aller dans les églises, de mobiliser ses fonds au nom de l'organisation ou bien au nom de l'église ou de l'agence missionnaire. Le missionnaire soumet un budget à son église ou à son agence missionnaire. Et sur le terrain, cette agence missionnaire ou cette église suit les travaux de ce missionnaire à qui celui-ci est forcément redevable. Ça, c'est le modèle de coopération. Le missionnaire participe dans son propre financement. Est-ce qu'il y a des avantages dans ce modèle? Évidemment, il y en a. Voyons quelques avantages. 1. Le missionnaire est en contact direct avec ses partenaires financiers de prière parce qu'il va dans les églises, il va mobiliser des gens, des amis, des proches, etc. 2. Le missionnaire participe personnellement à la mobilisation des chrétiens de sa dénomination pour prendre à cœur la mission. Il a des histoires à raconter. Il incite les gens à rejoindre le mouvement de Dieu. Ça, c'est un bon côté. 3. Le missionnaire est assuré d'avoir un peuple qui intercède en sa faveur, car c'est un élément fondamental. Celui qui part en mission doit s'assurer qu'il y a une armée de soldats spirituels qui le soutient dans l'œuvre missionnaire, qui le soutient spirituellement. 4. Le missionnaire est plus conscient des réalités économiques des gens et leur vision de la grande mission. C'est-à-dire les réalités économiques des gens auprès de qui il fait des demandes ou il présente son projet missionnaire. 5. C'est bon pour la croissance spirituelle, la maturité et la vie de foi du missionnaire. Le missionnaire apprend à vivre une vie de foi. Il comprend certaines dynamiques parce qu'il participe à son propre financement. Il mobilise ses amis, il mobilise son église. Et ça aussi lui permet de grandir spirituellement et d'acquérir de la maturité spirituelle. Ça, c'est fondamental, c'est très important ce modèle. Est-ce qu'il y a des désavantages ou des inconvénients liés à ce modèle? Évidemment, oui. Je n'ai point honte de l'évangile. Je crois, donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. Voyons certains de ces inconvénients. 1. Dans certains endroits, le missionnaire est souvent perçu comme un mendiant, un paresseux qui fuit ses dures réalités ou les dures réalités de son pays. Surtout dans des endroits qui n'ont pas une culture de levée de fonds. Quand le missionnaire part pour faire des levées de fonds, il y a des gens qui le regardent de travers, il y a des gens qui le diminuent. Et ça, il faut beaucoup de maturité à ce missionnaire de supporter ses regards. Et il lui faut également, pour être honnête, avoir la capacité de présenter son produit, c'est-à-dire son projet missionnaire sans manipuler les gens. 2. Instabilité financière, relâchement de partenaires au cours de route. Dans ce cas, beaucoup de missionnaires partent en mission. Tout en mobilisant des gens, ils partent sur des promesses de foi. Et tenant compte des aléas de la vie, de certaines vicissitudes, il y a des partenaires financiers qui le relâchent au cours de route. Donc là, il y a une certaine instabilité financière, mais le missionnaire, toutefois, doit dépendre de Dieu pour subvenir à ses besoins. Et il a la responsabilité aussi de prier pour ses partenaires de prière et ses partenaires financiers. 3. Souvent, le missionnaire est perçu par les nationaux et autochtones comme un patron supporté par un empire financier puisqu'il ne fait pas de business ou n'a pas de travail pécuniaire sur le terrain. 4. Ce modèle, à mon avis, favorise une mentalité de dépendance. Pourquoi je dis que ce modèle favorise une mentalité de dépendance? Parce que le missionnaire au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire les gens auprès de qui il exerce son ministère, savent pertinemment qu'il ne travaille pas pour de l'argent sur le terrain. Donc, il dépend des gens qui lui soutiennent à l'extérieur. Et parfois, on trouve des nationaux qui pensent que ce missionnaire a beaucoup d'argent, surtout si son attitude envers les gens et si sa manière de gérer l'argent n'est pas vraiment convenable. Voyons maintenant le troisième modèle que j'appelle le modèle d'autofinancement externe. Qu'est-ce que j'entends par modèle d'autofinancement externe? Le missionnaire, avec son propre fonds et de son propre gré, décide de partir en mission sans être nécessairement encadré par une agence missionnaire ou une dénomination. Il y a des gens qui ont à cœur la mission de Dieu, qui ont de l'argent et qui partent en mission, qui vont dans des endroits, qui vont dans des communautés à titre de missionnaires. Dans certains cas, ces missionnaires ou ces gens ne sont pas encadrés par une communauté, par une église locale, par une agence missionnaire. Lui, il part en mission parce qu'il aime le Seigneur et il prend son argent, il fait l'œuvre missionnaire. Est-ce qu'il y a des avantages dans ce modèle? Voyons quelques avantages. D'abord, ce missionnaire n'a pas de soucis financiers parce qu'il a un fonds disponible. Il a de l'argent, il a un plan bien défini, il a un plan stratégique. Deux, le missionnaire est indépendant financièrement. Trois, le missionnaire a la liberté d'investir l'argent, son argent, dans le projet de son choix. Donc, c'est lui qui décide que faire, avec qui faire et comment faire. Est-ce qu'il y a des désavantages ou des inconvénients liés à ce modèle? Évidemment, oui, il y en a. Voyons ces désavantages. Un, tentation d'autosuffisance, ce missionnaire n'a pas de compte à rendre. Donc, il n'est redevable à aucune personne, à aucune église locale, à aucune mission, etc. Deux, pas de contact direct avec une équipe de soldats spirituels. Évidemment, il y a un bémol à ce sujet. Celui qui dépense son argent ou qui prend son argent pour partir en mission peut avoir une équipe de soldats spirituels qui le soutient ou pas. Trois, souvent, ce missionnaire est perçu par les nationaux et autochtones comme un patron supporté par un empire financier. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas sur le terrain pour de l'argent. Quatre, possibilité d'encourager une mentalité de dépendance, puisque les gens voient que ce missionnaire dépense de l'argent n'ayant aucune connaissance de ses sources de financement. Ils peuvent penser que ce missionnaire est capable de subvenir à tous leurs besoins. Voyons le quatrième modèle à présent, que j'appelle modèle d'autofinancement sur le terrain. Qu'est-ce que j'entends par le modèle d'autofinancement sur le terrain? Le missionnaire fait du business, il fait des affaires et travaille dans le pays ou dans la communauté où il exerce sa mission. Dans ce cas-là, le missionnaire n'a pas un empire financier qui le soutient. Le missionnaire n'a pas un fonds disponible pour le soutenir. Le missionnaire n'avait pas au départ des fonds personnels propre pour partir en mission, il part tout simplement et là, sur le champ missionnaire, il travaille. Il peut travailler comme professeur à l'université, il peut travailler comme commerçant, mais avec une vision missionnaire. Je trouve que ce modèle est particulièrement pertinent. Est-ce qu'il y a des avantages? Évidemment, il y en a. Voyons ces avantages. Un, le missionnaire n'est pas perçu par les nationaux et autochtones comme un patron, un boss supporté par un empire financier parce qu'il travaille sur le terrain, il est sur le terrain, tout le monde sait ce qu'il fait. 2. Le missionnaire est plus proche des réalités sociales et financières des gens. 3. Le missionnaire ne favorise pas une mentalité de dépendance nécessairement, j'ajouterai. 4. Le missionnaire inspire le travail parce qu'il travaille sur le terrain. Tout le monde voit ce qu'il fait. Les nationaux, les autochtones voient que c'est un rude travailleur. Il travaille et ça peut les inspirer à travailler aussi. 5. Le missionnaire est plus pratique dans sa communication de l'évangile. C'est important. Maintenant, les inconvénients de ce modèle. 1. Le missionnaire souvent ne se donne pas entièrement à la mission. Mais évidemment, il y a un bémol qu'on peut apporter à ça, dépendamment de son champ missionnaire, dépendamment de sa vision, de sa stratégie. 2. Le missionnaire est préoccupé par le quotidien, parce que la mission dépend de son travail, de ce qu'il fait pour supporter l'œuvre missionnaire ou bien pour implémenter des projets. Il y a un cinquième modèle que j'appelle modèle de financement endogène. Modèle de financement endogène. Qu'est-ce que j'entends par le modèle de financement endogène? Le missionnaire national ou autochtone est supporté par son église locale. Il est missionnaire dans son propre pays. Ça, c'est important. C'est excitant même. La personne est missionnaire dans sa propre communauté, dans son propre village, dans son propre pays et son église locale le soutient dans son œuvre missionnaire sur le terrain. Quels sont les avantages de ce modèle? 1. Le missionnaire n'est pas trop perçu par les nationaux et autochtones comme un patron supporté par un empire financier. 2. Le missionnaire est plus proche des réalités sociales et financières des gens comme au quatrième modèle. Le missionnaire ne favorise pas une mentalité de dépendance. 4. L'église nationale devient une église missionnaire engagée et c'est ça le plus important. L'Église sait pertinemment sa raison d'être. Elle sait qu'elle existe en vue de la mission. Et tout ce que fait cette Église pointe vers cette vision, vers cette mission. Tous les messages pointent du doigt la mission globale. Donc c'est une Église de missionnaires. Cette Église prend conscience des réalités de sa communauté, de son pays, et mobilise ces gens à œuvrer comme missionnaires dans leur propre communauté, dans leur propre village. Ce modèle est particulièrement un modèle envisageable, un modèle très important. Pourquoi? En raison de proximité. Personne ne peut mieux évangéliser les Haïtiens que les Haïtiens eux-mêmes, par exemple. Personne ne peut mieux évangéliser les Burkinabés que les Burkinabés eux-mêmes, parce qu'il y a des proximités. Ce missionnaire exerce sa mission dans son propre pays, dans son propre village. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin nécessairement d'adaptation culturelle. Il a tellement de proximité, il parle la langue des gens, c'est un autochtone comme les autres. Donc, il est plus facile pour ce missionnaire d'incarner le message de l'Évangile. C'est un modèle extrêmement important et franchement, je ne vois pas trop d'inconvénients ou de désavantages relatifs à ce modèle, car tel est la vision que nous devrions encourager, surtout au niveau des pays du Sud. Parce que nous constatons de temps en temps qu'il y a des conflits entre les nationaux et les missionnaires qui viennent de l'extérieur, ça ne veut pas dire que ceux qui sont missionnaires dans leur propre pays ne feront pas face à des conflits, mais la tension, à mon avis, est moindre. Et je pense que cette Église engagé, passionné pour la mission globale, doit toutefois faire preuve d'intelligence, doit pouvoir faire preuve d'ouverture d'esprit pour avoir une vision plus large. Dans ce contexte, je dis qu'une telle Église doit pouvoir développer de véritables partenariats avec d'autres églises et agences missionnaires nationales et étrangères pour participer à une plus grande échelle dans l'évangélisation mondiale. Ils peuvent, dans ce contexte, non seulement se préparer intellectuellement, mais aussi de se préparer à faire de nouvelles rencontres, à faire de nouveaux partenariats sans compromission, bien entendu, par exemple, un pays comme le Nigeria. Donc, les missionnaires au Nigeria peuvent collaborer avec les missionnaires ou l'Église au Niger pour permettre à l'Évangile d'aller plus loin. Les missionnaires burkinabés peuvent collaborer avec les missionnaires ou bien les églises en Côte d'Ivoire, parce qu'entre ces pays-là, il y a beaucoup de proximité. Donc, il est plus facile à ces pays d'avoir des coopérations en vue de l'évangélisation mondiale. Ça ne veut pas dire que l'Église occidentale n'a rien à faire avec nous. Non. Nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu. Nous pouvons collaborer ensemble en vue de la mission mondiale, de l'évangélisation mondiale. Et c'est dans ce contexte que la déclaration de Lausanne nous dit. Nous affirmons que Dieu veut que son Église soit de façon visible, une dans la vérité. L'évangélisation de son côté nous exhorte à être unis, car l'unité renforce notre témoignage, tandis que nos divisions dévaluent l'évangile de la réconciliation. Nous reconnaissons cependant que l'unité d'organisation peut prendre des formes diverses et ne favorise pas forcément l'évangélisation. Toutefois, nous qui partageons la même foi biblique, nous devrions être intimement unis dans la communion fraternelle, dans l'accomplissement de notre tâche et de notre témoignage. Et la déclaration poursuit pour dire: nous confessons que notre témoignage a été parfois déprécié par notre individualisme coupable et par une dispersion inutile. Nous nous engageons à rechercher une unité plus profonde dans la vérité, l'adoration, la sainteté et la mission. Nous préconisons une collaboration intensifiée sur le plan régional pour aider l'Église à poursuivre sa tâche, élaborer des plans stratégiques, s'encourager mutuellement et partager ressources et expériences. Quel modèle de financement est mieux adapté aux réalités des pays du Sud? Tenant compte de ces 5 modèles que je viens de vous présenter, c'est à vous de faire l'évaluation pour voir lequel est mieux adapté. À mon avis, le 5e modèle est un modèle à envisager, c'est-à-dire mobiliser les églises nationales pour équiper leurs fidèles, leurs membres, à partir en mission dans leur propre communauté, dans leur propre village ou dans des villages et communautés de leur propre pays. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rende digne de son appel, qu'il nous inspire. Merci à vous.